Rubrique d'hiver. Il y a 100 ans, août 1914, la faillite des partis socialistes et de l'Internationale ouvrière. Pour les populations d'Europe et du monde, le déclenchement de la Première Guerre mondiale fut le début d'une barbarie sans nom. Pour la classe ouvrière, ce fut, en plus, la faillite de ses organisations les plus puissantes. Depuis des années, des millions de prolétaires à travers le monde avaient construit des syndicats et des partis ouvriers qui représentaient leurs intérêts et qui, en toute occasion, opposaient le point de vue des exploités à celui des exploiteurs, portant l'idée d'une autre société sans oppression et sans frontières. Avec la guerre et le ralliement des partis socialistes à des gouvernements chauvins dits, entre guillemets, d'union sacrée, tout cela s'effondra. Les partis socialistes avant 1914. Derrière des noms différents, mais se revendiquant tous du socialisme, des partis s'étaient créés partout où l'industrialisation avait fait naître une classe ouvrière, essentiellement en Europe de l'Ouest très industrialisée, comme en Allemagne, en France, en Belgique, en Angleterre, en Autriche, en Italie, mais aussi en Europe de l'Est, où naissait une jeune classe ouvrière, comme en Russie, en Pologne, en Serbie, ou encore en Roumanie et en Bulgarie. Il y avait aussi de jeunes partis socialistes en dehors de l'Europe, dans certains pays d'Amérique du Nord et du Sud. Tous étaient regroupés au sein d'une organisation internationale, l'Internationale ouvrière ou Deuxième Internationale. Fondée en 1889, celle-ci avait repris le programme de l'Association internationale des travailleurs, AIT, à laquelle Marx avait collaboré, programme symbolisé par deux formules, entre guillemets, « Travailleurs de tous les pays, unissons-nous » et « L'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. » Il existait d'autres organisations ouvrières qui se revendiquaient de l'anarcho-syndicalisme et qui étaient restées en marge de cette internationale ouvrière, comme la CGT en France ou la CNT en Espagne. Mais elles en partageaient beaucoup de principes révolutionnaires. Grâce à tous ces syndicats et ces partis, à travers leurs journaux, par l'intermédiaire d'innombrables associations culturelles ou sportives, s'adressant à toutes les couches du prolétariat, des ouvriers d'usine aux femmes de ménage, jusqu'aux ouvriers agricoles, des millions de travailleurs par-delà les frontières étaient influencés par les idées du socialisme. La propagande internationaliste devant la montée des tensions impérialistes. Face à la montée des rivalités entre grandes puissances impérialistes, françaises, anglaises et allemandes, et face à leur course effrénée aux conquêtes coloniales, le mouvement ouvrier avait réagi en dénonçant le militarisme croissant et le colonialisme. À chaque congrès des différentes sections de l'Internationale, ainsi qu'à chaque congrès international, des motions étaient votées en ce sens. En novembre 1912, à Bâle, une résolution du congrès de l'Internationale demanda, ouvrez les guillemets, aux travailleurs de tous les pays d'opposer à l'impérialisme capitaliste la force de la solidarité internationale du prolétariat, fermez les guillemets, déclarant que, ouvrez les guillemets, les travailleurs considèrent comme un crime de tirer les uns sur les autres pour le profit des capitalistes ou l'orgueil des dynasties ou les combinaisons des traités secrets, fermez les guillemets. Les partis socialistes comptaient cependant de puissants courants qui, aux principes révolutionnaires, préféraient des conceptions réformistes et légalistes. Certains reprenaient même la propagande bourgeoise sur, entre guillemets, l'œuvre civilisatrice de la colonisation. Ils prenaient appui sur une, entre guillemets, aristocratie ouvrière, selon Lénine, qui désignait ainsi la mince couche de travailleurs relativement privilégiés par le développement capitaliste. Ces courants réformistes minoritaires trouvaient toujours en face d'eux des courants révolutionnaires pour les combattre. Mais le fait qu'ils puissent être présents à l'intérieur même des partis socialistes en faisait un danger mortel. Ils furent, entre guillemets, des agents de la bourgeoisie au sein même du mouvement ouvrier, comme Lénine allait l'écrire plus tard. Quand la guerre éclata, ils furent la brèche par laquelle s'engouffra la propagande chauvine qui désorienta et démoralisa les ouvriers socialistes. Les manifestations pour la paix. Fin juin 1914, l'assassinat de l'archiduc d'Autriche à Sarajevo fit éclater une crise politique dans les Balkans. Par le jeu des alliances, la marche vers la guerre allait s'enclencher dans toute l'Europe. Les organisations ouvrières organisèrent d'importantes manifestations contre la guerre. Alfred Rosmer, à l'époque militant de la CGT, et plus tard dirigeant de l'Internationale communiste puis trotskiste, décrivit ainsi la manifestation du 27 juillet 1914 à Paris. Ouvrez les guillemets. De 9h à minuit, ce lundi soir, une foule énorme a déferlé sans cesse sur les boulevards. D'énormes forces de police avaient été mobilisées. mais les ouvriers qui descendent des faubourgs sur le centre sont si nombreux que la tactique policière aboutit à un résultat imprévu. On a bientôt autant de manifestations que de rues. Les violences et les brutalités policières ne peuvent avoir raison de la combativité de cette foule. Toute la soirée, le cri de « À bas la guerre » résonnera de l'opéra jusqu'à la place de la Bastille. Fermez les guillemets. Durant cette dernière semaine de juillet, le dirigeant socialiste Jean Jaurès courut les ministères, pensant que par son influence, il pouvait empêcher la guerre. En fait, cela contribuait à rendre les ouvriers socialistes attentistes en s'accrochant à cet espoir. Car les sentiments pacifistes ne pouvaient suffire à s'opposer à des États qui, depuis des années, se préparaient à la guerre et se lançaient désormais dans la mobilisation générale. Et quand le gouvernement menaça d'utiliser, entre guillemets, le carnet B, liste de la police qui répertoriait les noms des militants les plus connus, la CGT et le Parti socialiste furent pris au dépourvu et ne surent pas réagir. L'assassinat de Jaurès et le vote des crédits de guerre. Jaurès fut assassiné le 31 juillet par un militant nationaliste et les événements s'accélérèrent. Le 1er août, l'ordre de mobilisation générale fut affiché dans l'après-midi. Le lendemain, les mobilisés se mirent en route pour rejoindre leur bataillon et les manifestations nationalistes prirent le pas sur les manifestations pacifistes. À Paris, des boutiques aux noms à consonance allemande furent saccagées et des groupes commencèrent à faire, entre guillemets, la chasse aux espions. Le 4 août 1914, aussi bien au Reichstag allemand qu'à l'Assemblée nationale française, les députés socialistes votèrent à l'unanimité les crédits militaires. Les socialistes opportunistes, renforcés par la montée nationaliste, avaient réussi à entraîner les députés socialistes indécis. Et les députés de tendance révolutionnaire se soumirent à cette nouvelle majorité qu'ils n'avaient pas prévue. Le vote du 4 août marqua en fait la faillite de la Deuxième Internationale. À un moment où son opposition aurait pu être décisive, des millions de travailleurs en Europe se retrouvèrent livrés pieds et poings liés au militarisme et à la propagande nationaliste. Ceux qui résistèrent se retrouvèrent isolés et désarmés face à la bourgeoisie qui mobilisait ouvriers et paysans pour les envoyer sur les champs de bataille. Le Parti socialiste italien allait adopter une position plus ambiguë, déclarant ne vouloir, entre guillemets, ni adhérer ni saboter la guerre. Un des très rares partis qui sut résister à la pression et maintenir une ligne révolutionnaire et internationaliste fut la fraction bolchévique du Parti social-démocrate russe, avec Lénine à sa tête. La vague chauvine ne dura qu'un temps. La guerre et ses désastres allaient finir par engendrer la plus grande montée révolutionnaire ouvrière de l'histoire. Mais les partis socialistes de la Deuxième Internationale étaient morts en tant que partis représentant les intérêts de la classe ouvrière. Le mouvement ouvrier ne pouvait se régénérer qu'à partir des courants révolutionnaires dont le regroupement à la fin de la guerre, après la Révolution russe, allait donner naissance à la Troisième Internationale, l'Internationale communiste. Pierre Royan.